Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast, disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com.
Vas-y, mets ta moustache.
Au sommaire aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, une émission consacrée à la comédie. Et on va causer, entre autres, de Ailleurs, l'herbe est plus verte, un film de 1960, signé Stanley Donen, disponible chez Rimini Édition. On abordera également Veuve, mais pas trop, un film de 88 de Jonathan Demme, sorti chez BQHL. De Mauvaise foi, un film de 2025 d'Albéric Saint-Martin, sorti chez Sage. Salut l'ami, adieu le trésor, un film de 80 de Sergio Corbucci. Quand faut y aller, un film de 83 de E.B. Clocher, alias Enzo Barboni Clocher. Attention les dégâts, toujours du même réalisateur en 84, et Les super flics de Miami en 85 de Corbucci. Alors ces quatre titres-là, c'est chez BQHL, et ces quatre titres mettent évidemment en vedette Bud Spencer et Terence Hill. L'équipe de Culture Prohibée tient à remercier tout particulièrement Sandrine Hiver, Jean-Pierre Vasseur et François Villa pour leur aide sur cette émission. Pour une grosse marade, et oui, pour se fendre la poire, comme l'on dit, je suis accompagné de mes acolytes les plus drôles et plus irrésistiblement drôles. À savoir Damien Demé, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oublié, co-animateur de Projections Perdues, le podcast de la Chimératech disponible sur YouTube. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Également présent dans ce studio, l'hilarant Thomas Roland, dit le loup-garou Picard, qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglants sketchs pour divers stand-up. Salut Thomas.
Salut Jérôme, salut Damien et bien évidemment salut à toutes.
Chers amis, je débute cette émission par un film signé d'un metteur en scène que l'on a souvent qualifié uniquement de maître de la comédie musicale, alors qu'en fait, c'est un metteur en scène qui est passé maître dans l'art de mettre en scène, c'est le cas de le dire, des films dans tous les genres. Hein. Par exemple, son Charade est un vrai petit miracle de film d'espionnage, teinté d'humour, indiscret, arabesque. Évidemment, il y a Drôle de frimousse avec Audrey Hepburn. Il y a aussi le film qui a fait qu'on le considère comme un maître de la comédie musicale, Chantons sous la pluie en 52. Ce réalisateur, bien sûr, vous l'avez deviné, c'est Stanley Donen. Et Stanley Donen, en 1960, il signe une comédie qui s'appelle Ailleurs, l'herbe est plus verte. Pour une fois, le titre français n'est pas mensonger, puisque le titre anglais est The Grass is Greener. Voilà, donc on est quasiment sur une traduction quasi exacte. En tout cas, l'expression anglaise correspond peu ou prou à l'expression française. Alors, c'est un film de Stanley Donen qui réunit un casting assez important. Hein, Cary Grant, Deborah Kerr, Robert Mitchum, Gene Simmons. Excusez du peu, hein, c'est pas mal quand même. Et c'est, alors on peut le remercier parce que c'est un film un peu tombé dans l'oubli, c'est l'éditeur Rimini Édition qui remet ce film au goût du jour. Alors, qu'est-ce que ça raconte, hein? C'est une histoire un peu de comédie de boulevard, quelque part assez classique. Lord et Lady Ryle ont dû ouvrir au public leur manoir anglais pour arrondir les fins de mois. Ils vivent avec leurs deux enfants dans quelques pièces du château, pendant que les touristes se bousculent dans le reste de l'immense demeure. Madame cultive des champignons qu'elle vend au village. Le majordome supplie qu'on le renvoie pour faire des économies. Il veut pas rester dans le château. Et un jour, un millionnaire américain, Charles Delacroix, pousse la porte marquée privée et tombe sous le charme de Lady Royal. Elle part à Londres sous couvert d'habiter chez son amie Hattie et vit quelques jours de rêve avec l'américain. Lord Royal n'est pas dupe, mais tient à garder sa femme sans se montrer jaloux. Il organise un week-end au manoir où les quatre protagonistes vont donc se retrouver tous ensemble. Bon, comme je vous l'avais dit, on est dans un postulat de départ qui fait très comédie de boulevard. Hein. Alors c'est une comédie d'ailleurs dite de remariage, hein, qui est aussi un sous-genre de la comédie. Hein. C'est d'ailleurs le film en pâtit un peu. Le film est la transposition d'une pièce, hein, d'une pièce à succès. Et d'ailleurs, l'action se passe quasiment tout le temps dans le manoir. Aussi heureusement qu'on a une telle distribution quand même pour faire passer par moments un peu la pilule, parce que tout grand Stanley Donen qu'il est, il n'arrive pas toujours à éviter l'écueil théâtral. Et pourtant, hein, il tente, hein, il utilise par exemple le split screen, ce qui ne se pratique pas beaucoup, hein, en 60. Brian De Palma n'est pas encore devenu le maître du split screen. Hein. Il tente de dynamiser un peu, par la mise en scène, le dispositif théâtral, mais on a un peu de mal à se sortir de cet aspect théâtral. Toutefois, il y a des moments assez fabuleux dans le film. Il y a par exemple un générique signé Maurice Binder, les génériques des James Bond, hein, de la grande époque, hein, où, en fait, chaque département technique du film est représenté par un tout petit enfant, par un bambin. Et je pense qu'il y a des pubards qui ont vu ce générique et qui l'ont repris pour nous vendre une certaine eau minérale, si vous voyez ce que je veux dire. On va pas bouder notre plaisir parce que c'est quand même un grand metteur en scène derrière la caméra. Alors je vous l'ai dit, il a un peu du mal à se sortir de l'aspect huis clos, mais c'est déjà quelque chose aussi sur lequel il a du mal. Enfin, il aura un peu du mal plus tard lorsqu'il fera Saturne 3 dans un sous Nostromo, j'ai envie de dire ça comme ça pour être gentil avec Stanley Donen. Et là, c'est pareil, il aura du mal à se sortir de quand ses personnages sont un peu à l'étroit. Par contre, il y a aussi dans le film un habituel complice de Donen qui a la classe incarnée, qui est Cary Grant et qui est donc Lord Royal. Alors lui, par contre, il apporte ce truc en plus. Je claque des doigts là quand je le fais parce qu'il a un peps fou. Il apporte un dynamisme assez dingue. C'est assez impressionnant. Face à lui, il a Deborah Kerr. Alors Deborah Kerr, je n'ai pas besoin de vous présenter qui est la grande Deborah Kerr, d'autant plus qu'on en avait parlé beaucoup dans l'émission lors de la sortie de l'ouvrage paru chez Marest Éditeur qui s'appelle Mythologie au pluriel de Deborah Kerr, un livre d'Olivier Mudry. Et puis plus étonnant, il y a un acteur qui est un acteur qu'on adore toutes et tous, qui est un acteur qu'on n'imagine pas toujours dans des comédies, qu'on a fait très peu, c'est Robert Mitchum. Et pourtant, sa nonchalance naturelle, son jeu très maîtrisé sur une sorte de faux rythme comme ça, en fait que Mitchum est très drôle, est très très drôle. Et en fin de compte, il aurait peut-être dû en faire un peu plus des comédies, ça nous aurait fait plaisir. Et puis, c'est aussi la reconstitution du duo de Dieu seul le sait, hein, avec Deborah Kerr. Et puis, il y a... Il y a la touche charme, en fait, Gene Simmons, qui va apparaître carrément en tenue très très légère sous un manteau de vison. D'ailleurs, c'est l'apparition de son personnage qui relance un peu le rythme du film qui était un peu en train de tomber. Et ça reste une comédie bien troussée parce que Stanley Donen, il a une belle maîtrise technique, c'est un spécialiste de la comédie, parce que les acteurs sont très bons, mais ça reste trop sage. C'est-à-dire que on sait que Donen, il fera des choses beaucoup moins sages et plus réussies dans les quelques années à venir. Et il faut voir ailleurs l'herbe plus verte, parce que c'est un jalon important dans sa filmo. Ça préfigure en fait un de ses meilleurs films, qui est Voyage à deux, qui est un film de 67. Donc, rien que pour ça, il faut voir Ailleurs l'herbe est plus verte. Donc, Ailleurs l'herbe est plus verte de Stanley Donen, une comédie pleine de charme, de peps, avec Cary Grant, Deborah Kerr, Robert Mitchum et Gene Simmons. C'est disponible chez Rimini Édition.
Friends, Angela. Whether you like it or not.
Who's the bimbo?
Angela DeMarco.
My husband worked for Tony, and Tony's been trying to screw me ever since.
Tony!
We're still in your family.
All right, where is he?
You always will be.
Tony is gone!
I got nothing to live for anymore, Tony.
Shake a baby, shake it, cause you love her when you take him.
Angela, you're a very exciting woman.
Michelle Pfeiffer, Matthew Modine. In a Jonathan Demme film, Marry the Mob.
That's nice.
Je vais faire maintenant un bond dans le temps et je vais passer la parole à mon ami Thomas, qui aime bien secourir les veuves en détresse quand elles ressemblent à Michelle Pfeiffer.
Tout de suite, hein, pourquoi tu me fais passer, hein, franchement, hein. Eh oui, Michelle Pfeiffer, veuve en détresse, dans un film de Jonathan Demme. Jonathan Demme qui a commencé, je le rappelle, chez Roger Corman et qui considérait tous ses films comme des films bis. C'est du moins ce qu'il affirmait avec humour en 88 à propos de Veuve mais pas trop, qu'il estimait pouvoir faire partie d'une production Roger Corman parce que, toujours selon ses dires, hein, je le cite, hein, il y a de l'action, de l'humour et du sexe. Il est d'ailleurs toujours accompagné de, pour Veuve mais pas trop, hein, il est toujours accompagné de son directeur de la photographie, Tak Fujimoto, qu'il a rencontré sur son premier long métrage, 5 femmes à abattre, une production Corman.
Disponible chez The Ecstasy au film, 5 femmes à abattre. Voilà. Ça fait un beau duo, Veuve mais pas trop chez BQHL, 5 femmes à abattre chez The Ecstasy au film. Nous voilà avec deux films de Jonathan Demme dans la besace pour Noël.
Exactement. Surtout que ce sont deux films qui se rapprochent sur un certain point, je vais y revenir. Et donc dans Veuve mais pas trop, Michelle Pfeiffer incarne Angela DeMarco, la femme d'un membre de la mafia qui prend les traits d'Alec Baldwin. Angela DeMarco, elle a tout, une grande maison, de l'argent, mais elle déteste ce style de vie. Et quand son époux est tué, elle a l'opportunité de repartir à zéro. Seulement, c'est sans compter Tony Russo, grand ponte de la mafia, et accessoirement assassin de son mari, qui veut absolument la séduire et ne la lâche pas. Par conséquent, Angela se retrouve à être surveillée à la fois par la mafia de Long Island et par le FBI, qui veut coincer Tony Russo. Tout d'abord, il faut préciser que cet excellent film de Jonathan Demme n'est pas aidé par son titre français, qui est quand même un petit peu ridicule, hein, et ne reflète pas vraiment l'intrigue, au contraire du titre original. Married to the Mob, marié à la mafia en français, colle bien plus à ce que subit la pauvre Angela DeMarco, étiquetée même après la mort de son mari, femme de mafieux. Oui, il s'agit bien d'un film de mafia que Jonathan Demme sublime à une comédie féministe et engagée, tout comme 5 femmes à abattre, qui est déjà un film féministe à l'époque. Car que raconte Married to the Mob si ce n'est le combat d'une femme pour son indépendance, pour regagner son statut de femme libre et sa volonté de s'affranchir du rôle que la société veut lui coller? D'ailleurs, il y a quelques scènes bien cocasses, hein, où justement le propos n'est pas brandi comme un étendard, mais amené de façon assez fine. Cela voit alors des portraits assez croustillants d'hommes tous aussi ridicules les uns que les autres, de Tony Russo, incarné par un Dean Stockwell très inspiré et dont c'est le rôle favori, à Matthew Modine, agent du FBI aussi psychorigide que maladroit, sans oublier les hommes de main et les agents du gouvernement. D'ailleurs, le film, en plus de décrire une société patriarcale où il est difficile pour une femme d'y trouver sa place, est aussi une critique sociale en dénonçant certains agissements du gouvernement comme user des faiblesses les plus précaires en les faisant chanter. Comédie aussi pétillante qu'intelligente, Married to the Mob n'oublie pas d'être un film policier et réserve quelques grands moments de mise en scène plutôt baroques, comme les meurtres dans le train ou dans l'hôtel, ou la fusillade au fast-food, tout en second degré, dans laquelle on sent à quel point Dean Stockwell s'amuse. J'aime beaucoup cette séquence, je crois que c'est ma préférée du film. Film de mafia, comédie vaudevillesque, film engagé, Jonathan Demme aime décidément mélanger les genres en y intégrant également une histoire d'amour improbable. Ce joyeux mélange ne détonne jamais grâce à la mise en scène dynamique de Jonathan Demme. Et tout cela fait de Veuve mais pas trop, je rappelle c'est le titre français ridicule. Donc Veuve mais pas trop est un film de Jonathan Demme à redécouvrir d'urgence et ça tombe bien parce qu'il vient de sortir chez BQHL. Écoutez Culture Prohibée.
Mon cher Thomas, tu me parlais de film engagé. Moi aussi, je vais te parler d'un film engagé. Je vais vous parler d'un film engagé, en l'occurrence, De mauvaise foi, un film d'Albéric Saint-Martin, produit par Sage. Et oui, Sage, vous savez, cette société spécialisée dans la distribution de films en lien avec la religion. Alors, ils distribuent, on en avait parlé hein, dans l'émission spéciale Godsploitation. Ils distribuent tout ce qui est en lien avec la religion. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir un film. Alors, ils avaient renoncé à le distribuer en salle, mais ça avait fini par être distribué, ce film ignoble anti-avortement. Là,
Unplanned.
Exactement, dont on avait parlé dans l'émission Godsploitation. On
n'est pas obligé de le citer.
Et par contre, il distribue aussi bien Silence de Scorsese, par exemple, qui est un grand, grand film de cinéma et qui est évidemment sur la foi, la religion aussi. Hein, donc c'est fort logique. Mais il distribue tout, donc tout ce qui est en lien. Et là, il se lance dans la production avec un film qui s'appelle De mauvaise foi, signé d'un réalisateur qu'on ne connaît pas, enfin ici, pour ceux qui ont vu ses courts-métrages, mais en tout cas qui n'avait pas fait de long-métrage jusqu'ici, qui s'appelle Albéric Saint-Martin, ce metteur en scène. Et moi, j'étais un peu, interloqué par le casting, parce que dans le casting, on retrouve deux acteurs que j'aime beaucoup, c'est Pascal de Molon et Philippe Duquesne. Alors Pascal de Molon, c'est vraiment un acteur... Bon, il joue... dans le très bon comme le moins bon. Il a longtemps fait des truands et puis on a découvert qu'il avait quand même une appétence pour la comédie. Enfin, il a souvent fait des seconds rôles parce qu'il a un visage particulier, donc en jouant des types borderline, tout ça. Et puis, c'est le film Radio Star un peu qui l'a fait un peu sortir de l'ombre, cette comédie fort sympathique, avec aussi Manu Payette, par exemple, qui était un chouette film hein, sur le boulot des animateurs de radio qui font les émissions de radio itinérantes en province. Comme on dit en province, hein, parce que nous trois dans le studio, là, on est en province. Hein, vu qu'on est à plus de 10 km de Paris, on est en province. Voilà. Alors, lui qui se retrouve là-dedans, qui est plutôt. Qui a plutôt souvent des rôles assez singuliers. Et puis Philippe Duquesne, qui vient des Deschiens, qui est un second rôle qui joue, c'est pareil, dans plein de films, de séries, qui est hilarant, qui est extraordinaire, et qui est très poétique aussi, qui a un côté très lunaire, et qui est extraordinaire dans la série Parlement, qui fait un président de Parlement complètement à l'ouest. Rien qu'à une pensée, je suis mort de rire. Quoi. Ben bon, bref, je vous conseille aussi cette série Parlement, si vous ne l'avez pas vue. Non seulement vous comprendrez tout sur le fonctionnement du Parlement et de la Commission européenne, ce qui est quand même incroyable, et vous vous fendrez la poire. Voilà. La série est terminée, hein. Je crois qu'il y a 4 saisons, c'est sur France Télévisions, ça se voit assez facilement. Alors dans ce film d'Albéric Saint-Martin, évidemment, si c'est la première production de Sage, donc si c'est de la première production de Sage, c'est forcément du soft power, hein. C'est-à-dire que là, les équipes de Sage Distribution, eux, mettent sur la table 2,5 millions d'euros, c'est quand même un tout petit budget, parce que ça c'est le réalisateur qui en parle, hein, du budget du film, et pour essayer de produire un pendant à « Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Oh bon Dieu !» mais qui serait un peu plus clément avec ses protagonistes. Alors « Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Oh bon Dieu !» Bon, bah, inutile de vous dire que c'est vraiment, pour la rédaction de Culture Prohibée, un peu l'antithèse de ce qu'on aime, et encore, on est gentil.
Ah bah, c'est de l'abjection, c'est abject.
Est-ce que ce ne serait pas l'antéchrist de ce qu'on est ?
C'est l'antéchrist pour nous, voilà, exactement. Et là, je vous... C'est quand même mieux. Là, c'est mieux, hein, quand même, hein, parce que c'est pas. En même temps, c'est pas compliqué de faire mieux, mais il est assez bienveillant avec ses personnages. C'est plutôt une comédie, en fait. C'est la force du soft power, de toute façon. Hein, c'est plutôt une comédie assez habilement troussée, en fait, en vérité. Même si c'est pas la comédie de l'année, c'est plutôt habilement troussée. C'est adapté d'un bouquin qui s'appelle Les pieuses combines de Réginald, qui est un bouquin qui est paru chez Quasar en 2014 et qui a fait un gros carton. Et qui est un bouquin vraiment drôle, hein, puisque c'est un livre qui raconte comment un notaire d'origine noble qui est un peu dans la loose, quoi, qui a pas beaucoup de pognon, fait diverses manigances pour pouvoir se débarrasser de son futur gendre et récupérer des fonds pour rénover le château familial. Donc le livre est assez marrant, et donc le film raconte un peu la même histoire avec ce notaire là qui cherche absolument à marier sa fille un jeune homme catholique, évidemment attiré par la peinture, sauf que cette fille, elle veut épouser un athée. Et voilà. Et là, alors là, c'est le drame. Là, c'est le drame terrible. Et donc, à partir de là, vont se développer toute une série de gags plus ou moins réussis et avec des quiproquos plus ou moins drôles. Alors, il y a des gags à répétition qui sont assez drôles, hein, dans le film. Hein. Il y a en particulier un gag à base d'arrosage automatique. Ça marche toujours, depuis les origines du cinéma d'ailleurs, depuis les Frères Lumière. Et puis, il y a une utilisation récurrente et assez drôle de la chanson « Elle descend de la montagne à cheval ». Alors, je pense que ce n'est pas une référence à la VF du Grand Saut des Frères Cohen. Je pense plutôt que c'est une référence au chant scout. On est quand même chez Sage. Voilà. Et le film d'ailleurs est tourné... Comme quoi, la question religieuse est importante quand même, en sous-tendu. Hein. Le film est tourné à Paray-le-Monial, qui est un haut lieu de pèlerinage pour les catholiques, alors que les impies, comme nous tous dans ce studio, on ne connaît pas, mais donc, que j'ai découvert grâce à ce film, et qui accueille quand même tous les ans plus de 200 000 pèlerins. Donc, c'est quand même pas un petit lieu de pèlerinage. Et alors là, bon, donc, dans le film, vous avez une sorte de manuel pour savoir comment vous y rendre. Hein, et même comment réserver tout ça. Voilà, bon, sorti de là. Que vaut ce film ? Je vous l'ai dit, Pascal de Molon, il est super dans le rôle de Réginald, il est déchaîné, il est égal à lui-même, il est hilarant. Philippe Duquesne, notre ex-déchien préféré qui fait un clerc de notaire, c'est pareil, lui, il est hilarant. Mais c'est plus les performances d'acteurs. Hein. La mise en scène, quand même, elle est... On sent que ça manque un peu de budget. Par moments, il y a des baisses de rythme. Et puis, le personnage soft power, d'ailleurs, du film, hein, Athénaïs, qui est incarné, évidemment, par une belle jeune femme blonde qui renvoie l'image de la pureté, en fait, virginale, telle qu'on peut se la faire. C'est Romane de Stabenras. Et Romane de Stabenra, elle est l'antithèse de son physique, c'est ça qui est plutôt malin dans le film. Elle est moderne et elle est croyante sans être. C'est pas très ostensible, quoi. Voilà, elle fait pas de prosélytisme. Donc, du coup, elle tombe amoureuse d'un athée et elle s'en moque parce que c'est l'amour qui prime avant tout. Le film, au final, c'est une comédie un peu passe-partout. Mais qui ne doit pas nous faire oublier quand même que je trouve que le personnage de l'athée il n'est pas forcément traité avec bienveillance. Donc c'est là, moi, que ça m'embête plus. Après, on a déjà vu ça dans d'autres films. Hein. Mais disons que ce n'est pas le personnage le plus subtil et malin du film. Mais bon, néanmoins, on voit bien là le but d'une entreprise comme ça, c'est-à-dire d'essayer de faire un film comme ça, tout public, qui va parler à tout le monde et qui a pour but un peu de... Si, comme s'il y avait besoin de le faire d'ailleurs, parce que normalement on n'a pas besoin de le faire, mais enfin de dédiaboliser un peu l'image qu'on pourrait avoir du catholicisme, alors qu'en fait il n'y a pas besoin, et que le film pour moi il s'apprécie sur les performances d'acteurs et sur les quelques gags que je vous ai cités tout à l'heure. Je ne vous ai pas tout dit, il y en a quelques autres aussi, mais néanmoins ça reste une comédie un peu poussive malgré tout, même si elle est agréable à visionner. En tout cas, c'est assez étonnant. Je pense qu'on refera des émissions de toute façon sur la production ou peut-être tout ce qui est en lien avec la religion, parce que ça avait donné une émission, je pense, qu'on avait tous aimé faire. Mais c'est étonnant, on se retrouve dans une émission comédie et c'est étonnant de voir que Sage Production, du coup, fait une réponse au film de « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» là. C'est marrant. Alors, je pense qu'il rêvait de faire autant d'entrées en salle. Bon, là, ça a pas fonctionné. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus bienveillant et avec que le film de Philippe de Chauvron. Donc, si vous avez envie de découvrir quelque chose d'atypique, parce que c'est pas tous les jours. Aux États-Unis, il y a une vraie production de cinéma qu'on va qualifier, je vais dire, évangélique. En France, c'est peut-être le début de quelque chose. Donc à voir, tant qu'on n'en arrive pas à des inepties comme Sound of Freedom, qui est quand même non seulement du mauvais cinéma, mais quasiment de la propagande MAGA. Donc là, c'est quand même un film beaucoup plus sympathique que ça. Come with me for fun in my bargain. Écoutez Culture Prohibée, spécial comédie. On va terminer cette émission par quatre films. Alors quatre films, mais quatre films qui mettent en scène le même duo. Alors, du occulte, il faut vous le dire. Enfin, notre Damien, là, bon, c'est un petit jeune, mais Thomas et moi, ces films-là, on en a vu quelques-uns au cinéma, c'était quand même des moments de bonheur pour nous. C'était Terence Hill, Bud Spencer, c'était nos copains. On avait tous envie, quand il y avait un méchant qui nous embêtait dans la cour de l'école, que Terence Hill, Bud Spencer débarque et qu'il lui mette une tournée de torgnole, et puis que le gars essaye de se venger en tapant dans le ventre de Bud Spencer, ça marchera pas du tout, hein, d'ailleurs. Et que Terence Hill, il provoque un peu tout le monde, il fout un peu sa merde. C'est toujours un petit peu le petit chicaneur, Terence Hill, il aime bien embêter le monde. Et... c'est vrai qu'on les aimait bien, nos Terence Hill, Bud Spencer, Thomas.
Ouais, c'était des films qu'on aimait bien regarder. Tant au cinéma, et pendant un temps, ça passait aussi sur la 5. Hein. Mais je me souviens, les Super Flics de Miami, moi, je les ai vus en salle, quoi. Et c'était un événement à l'époque. Hein. Voilà, un film de avec Bud Spencer et Terence Hill, c'était un événement. En fait, c'est toujours le même film. Mais bon, on se marrait tellement, ça nous plaisait tellement.
Alors, la question est-ce que ça plaît tellement à Damien qui n'a pas grandi avec ces films, parce que c'est pas pareil, du coup, quand t'as pas grandi avec ces films-là, tu n'as pas le même regard bienveillant sur ces comédies. Alors, comédies qui sont là, qui nous sont sorties dans tous les sens par BQHL, hein, qui nous les sort en plus en UHD, c'est quand même surprenant. Après, il faut dire que les DVD qui étaient sortis jusqu'ici, oui, parce que j'avais les DVD, parce que bon... On n'est pas enfant un jour, on est enfant toujours quand on est cinéphile. Les DVD étaient quand même moches. Hein. Donc là, c'est vrai que l'UHD, ça fait vraiment des... L'image est superbe. Bon, puis il y a quand même quelques réalisateurs là-dedans. Il y a Sergio Corbucci, par exemple, pour Salut l'ami, Adieu le trésor, quand même. Oui, oui, le réalisateur de Django. Eh oui, oui, oui. Donc voilà. Et pas que Django, d'ailleurs. Donc, et puis il y a le directeur de la photo de... Très très bon, Enzo Barboni, alors, qui s'appelle là E.B. Clocher, mais c'est en fait Enzo Barboni Clocher, qui est aussi souvent aux manettes, lui qui avait lancé un peu leur carrière, puisque c'est lui qui fait les Trinitas hein, au départ. Donc voilà, bah, Damien, on va commencer par le début, on va les prendre dans l'ordre chronologique. On est en 1981, et Sergio Corbucci, le réalisateur. Anard de western qui ont marqué l'histoire du cinéma, nous signe une petite comédie qui s'appelle Salut l'ami, adieu le trésor, avec donc comme acteur Bud Spencer et Terence Hill, vous l'aurez compris.
Terence Hill, il joue Alan. Alan, il a eu l'idée pas très maligne de parier avec des malfrats une grosse somme d'argent qu'il a perdu au cours de courses hippiques. Mais heureusement pour lui, il a un oncle qui a une... un trésor qui est sur une île que lui, il ne peut pas aller chercher parce qu'il est malade. Mais il va dire à Alan qu'il devrait justement partir et aller chercher ce trésor. Le problème d'Alan, c'est qu'il doit partir rapidement et qu'il n'a rien pour partir. Heureusement pour lui, il y a Charlie, qui est du coup Bud Spencer, qui va partir pour faire un tour du monde avec un sponsor qui donne une scène que j'ai bien aimée, où en fait, on l'interroge et la seule réponse qu'il répond, c'est la marque et le slogan en continu. Les deux vont se retrouver sur un bateau, ils vont se disputer, ils vont échouer sur l'île où devait aller Alan, et là-dessus, bah, les péripéties vont s'enchaîner. Je vais commencer par un défaut, c'est les sauvages un peu trop stéréotypés, hein. Ils ont tous les cheveux crépus, mais ils ne sont pas cannibales, parce que ça fait partie des éléments qui sont très forts dans les comédies de Terence Hill et Bud Spencer, c'est qu'ils vont toujours poser des contextes de base, mais ils vont toujours faire en sorte de ne pas être totalement dans le cliché. Ils vont avoir un amour qui va être constamment abusé, qui vont être dans la surenchère, un amour qui va être absurde, mais qui va bien se suivre. Il y a des scènes de baston. Il y en a une que j'aime beaucoup où Bud Spencer se retrouve à l'intérieur d'une sorte de petite cabane. Il défonce les mecs à travers, en les faisant passer à travers les murs. Du coup, il y a les quatre murs de la cabane qui tombent, mais le toit est encore là. Et à ce moment-là, Bud, il fait 2-3 pas à l'extérieur de la cabane. Et c'est à ce moment-là que le toit il tombe. Mais pour moi, le moment où j'ai le plus bugué devant le film et qui me demande, et à laquelle je demande une explication, c'est pourquoi les pirates, ce sont des policiers BDSM. Ça, c'est le truc que je n'avais pas compris, qui arrive au milieu du film. Mais voilà, c'est une véritable question. Si quelqu'un a une réponse, je serais beaucoup intéressé par ça. Mais voilà, il y a vraiment une surenchère dans tout ce qui se passe à l'écran. À chaque fois, on s'attend à voir un certain gag arriver. Ils arrivent constamment à faire un pas de côté qui rend le tout constamment très amusant.
Voilà, vous pouvez participer en répondant à la question de Damien sur notre page Facebook. Le gagnant gagnera une édition spéciale de Cruising.
Pourquoi Cruising ? C'était marrant jusqu'ici, ton truc.
Bon.
Oui, c'est BDSM.
Ah oui.
Alors, mon cher Damien, il n'est pas plus policier BDSM que le policier qui arrose ses plantes dans le premier Mad Max de George Miller. Hein. Je veux pas dire, mais bon...
C'est des pirates, attention. C'est juste qu'ils n'ont pas détenu... Ah ça, si. Le chef des pirates a un cache-œil sous son képi et son pantalon qui a des ouvertures spéciales.
Et quand même, parce qu'ils jouent dans quasiment tous leurs films en second rôle, il y a quand même Sal Borghese en indigène. Et Sal Borghese, qu'on a vu dans plein de polars et tout, avec sa sale tronche. Là, je crois même qu'il faisait un mafieux dans un des Corbucci, des Bud Spencer Terence Hill, qui doit être de Corbucci d'ailleurs, dont on a parlé lors de la saison précédente. Faut le voir en indigène, enfin, c'est absolument pas sérieux. Alors je pense que là, il y a la réponse. C'est pas sérieux, Damien. C'est absolument surréaliste. Moi, je pense qu'ils se sont payés des vacances. Ils auraient pu tourner n'importe quoi sur n'importe quel scénario, sur n'importe quelle musique. D'ailleurs, il y a tout le temps de la musique. Là, on se croirait que c'est... On a l'impression qu'ils veulent nous vendre la chanson de l'été. C'était un truc très à la mode hein, dans les années 80, hein, les chansons de l'été. Et en fait, tout ça n'a pas beaucoup de sens. C'est un joyeux bordel. Et je pense qu'ils se sont payés de bonnes vacances, que ça a été un moment sympa. Et que... D'ailleurs, on en avait parlé dans l'émission. On avait fait une spéciale... On avait parlé beaucoup de Corbucci avec Vincent Jourdan qui avait écrit un bouquin sur Corbucci. Et c'est très clair que Corbucci, lui, c'est ce qu'il disait. Toute cette partie de sa carrière, c'était il s'est payé du bon temps. Quoi. Voilà, il n'est pas dupe, il savait très bien que ce n'était pas du grand cinéma, mais il s'est payé du bon temps. Parce que ces comédies-là, elles ont un point commun, je trouve, qui est assez étonnant. C'est que c'est des comédies... qui sont pas... souvent, elles font pas loin des deux heures, quand même. Alors que, normalement, une comédie, il faut que ce soit rythmé, quoi. Donc, une heure et demie, c'est bien. Et là, on a quand même... Il y a quand même des gros temps morts, mais il y a aussi des gros moments où t'es explosé de rire. Et puis, c'est avant tout aussi des films pour enfants. Enfin, je veux dire, c'est totalement enfantin. Parce que cette vision des indigènes, elle fleure bon, effectivement. On pourrait dire qu'elle fleure bon le colonialisme. Mais en même temps... Oui, mais pas totalement, puisque ces indigènes, en fait, ils sont sympas, ils sont bienveillants, ils sont contrairement aux pirates et tout, mais même les pirates, ça fait, on dirait un peu les pirates de les Gaulois hein, dans Astérix, quoi, voilà. Personne n'est vraiment méchant, et puis c'est un peu l'amour libre aussi, ces indigènes, parce qu'à chaque fois, nos copains, Terence Hill, Bud Spencer, à chaque fois, ils tombent amoureux de femmes, dans tous leurs films. Bon, et je sais pas, ils ont un côté presque pas bah cool, ces indigènes. Tout ça est vraiment pas très sérieux, quoi. Et c'est pour moi, bah évidemment que les cinquantenaires vont regarder ça avec un grand plaisir, parce que c'est sans prétention, quoi. Ça n'a pas vocation à être autre chose que ce que c'est, c'est-à-dire une comédie familiale qui est faite pour détendre. On y arrive bien. Après, là, on est... C'est la deuxième partie, en fait, qui nous est proposée du duo Bud Spencer-Terence Hill. C'est même le dernier grand film, un peu, j'ai envie de dire, du duo, hein, celui dont tu viens de parler. Donc, Salut l'ami, Adieu le trésor, hein, qui est de 81, qui est de Corbucci. Après, ils font plus grand-chose. Et on va en parler de ces derniers films. C'est vraiment les derniers films. Après, il y a Quand faut y aller, faut y aller. Toujours chez BQHL. D'Enzo Barboni, donc E.B. Clusher, de son surnom. Fraîchement sorti de prison, où il était incarcéré pour avoir coulé un yacht, le placide Doug O'Riordan, qui peut s'être, rencontre le querelleur Roscoe Fraser, qui peut être le querelleur. Et à l'issue d'une bagarre dans un restaurant, ils reprennent alors ensemble route vers le sud. À bord de la voiture de police qu'ils empruntent, entre guillemets, je vous lis, hein, là, c'est le résumé officiel que vous lirez au dos du Blu-ray. Lors du contrôle du camion qu'ils avaient volé, ils débarquent à l'aéroport, d'où ils s'envolent en direction de Miami, ignorant qu'ils ont pris l'identité de deux agents secrets. Recrutés par la CIA, les deux Lascars endossent les costumes de deux millionnaires texans et infiltrent une organisation criminelle dont les activités menacent la paix mondiale. Et ouais, Rien que ça. Rien que ça. Quand t'as 6 ans, ça marche d'enfer. Hein. Bon, un peu moins maintenant, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est-à-dire que, en fait, là, ils se font carrément plaisir. Barboni, qui est souvent un réalisateur un peu sous-estimé, mais c'est pas un si mauvais faiseur que ça. Le premier Trinita, il est plutôt bien troussé. Il faut dire les choses. C'est un bon film. Hein. C'est une bonne comédie, on est d'accord, Thomas.
Ah, c'est une bonne comédie de western, ouais. Moi, je vois surtout ça avant tout comme un western. C'est un bon western. Hein.
Et on sent bien. Alors, c'est pareil, il y a des petites baisses de rythme par moment, mais on sent bien que le mec a été un très bon directeur de la photo. Mmh. L'image est belle, quoi. Voilà. Et là, on a donc cette histoire, évidemment, où on a notre duo distributeur de gros pains dans la tronche, voilà, qui est là comme ça. Et puis avec, bah évidemment, Terence Hill. C'est le querelleur, vous l'avez deviné, hein, voilà. Et puis Bud Spencer, c'est le placide. Et alors, il est placide, il est soupaulé, il bougonne. Il bougonne beaucoup dans tous ses films, Bud Spencer. Mais il a un gros cœur. Bon, il a aussi des grosses paluches. Bon. Et moi, je me souviens du choc que j'ai eu la première fois que j'ai appris qu'en fait, Bud Spencer avait été un énorme sportif et qu'il avait fait les Jeux Olympiques, que c'était un nageur de l'équipe italienne et que c'était un athlète, en fait. Moi, je le voyais comme un gros patapouf. Mais non, en fait, c'était une montagne de muscles. D'ailleurs, quand je revois aujourd'hui, je me rends compte que c'est une montagne. Il a un peu de bidon, on va dire ça comme ça, mais c'est une montagne. Il a des paluches énormes. Et bah là, le duo reprend. Alors, le petit plus, c'est cet aspect James Bond, en fait. Parce que du coup, on a le droit aux gadgets, évidemment. On a le droit aux méchants. Alors... Là, le patron de l'équivalent du Spectre, il n'a pas un chat, il a un chien, par exemple. Mais c'est marrant, enfin, voilà. C'est une manière de parodier les James Bond qui est plutôt sympathique. Par contre, le film, à la revoyure, manque quand même vraiment de rythme. C'est-à-dire qu'il faut... La première grosse bagarre, il faut attendre quasiment la moitié du film, quoi, pour la voir. C'est un peu long. Moi, j'aurais bien aimé qu'ils foutent des tatanes un peu avant, quoi, quand même, parce que c'est quand même ça qui est drôle, quoi, hein. Moi, j'adore quand les types leur tapent dessus, qu'ils sentent rien. C'est le gros gag, c'est ça. Hein. Les mecs, ils prennent tout ce qu'ils trouvent en matière de meubles, de bouts de bois. Ils tapent sur Bud Spencer, généralement. Tout se casse sur Bud Spencer, qui est totalement insensible à la douleur. Et après, en un seul coup de poing, généralement, il met un coup de poing sur la tête. Pas dans la tête, mais sur la tête. Et le type fait 3 tours sur lui-même, il n'y a plus personne. Voilà. Donc, on est là-dessus. Il est moins bien, quand même, celui-là. Il est moins bien que celui dont tu avais parlé juste avant, Damien, que le Corbucci. Et là, tu vas nous parler d'un autre film de Enzo Barboni Clocher, de Bay Clocher, qui suit, hein, parce qu'en fait, après, il n'y en a plus que deux. C'est Attention les dégâts et Les super flics de Miami, que donc Thomas a vu au cinéma quand il était jeune. Et Attention les dégâts, mon cher Damien, donc c'est l'avant-dernier film du duo. Alors plus tard, ils feront Petit Papa Baston, mais ils seront vieux, en fait. C'était plutôt un revival pour le faire plaisir. Je crois même que Terence Hill avait expliqué qu'il l'avait fait pour faire plaisir à ses enfants. Ses enfants ne savaient pas qu'il avait été une star de cinéma, donc il avait fait ça. Et il avait fait un Lucky Luke aussi, parce que ses enfants aimaient bien la BD. Donc voilà. Après, quand on est une star, on fait ce qu'on veut. Hein. Delon a bien fait un Zorro pour faire plaisir à ses enfants aussi. Hein. Donc voilà, c'est ça être une star. Parce qu'on le rappelle, hein, c'était des grosses, grosses stars hein, quand même, hein. Voilà, internationales. Donc attention les dégâts, mon petit Damien. Alors, il y a eu des dégâts aussi quand tu as passé le film sur ta platine Blu-ray ?
Il y a eu des dégâts, mais dans mon cœur. En fait, c'est le premier que j'ai vu et je l'aime beaucoup. Je pense que c'est celui que je préfère.
Oh, bon Dieu, mais je rêve ou quoi ? Oh bah ça alors, oh, si je savais pas que ça peut pas être moi, je dirais que c'est moi. Hein, que ce soit l'élégance, le style, tout. Oh,
et maintenant, dites-moi que ce n'est pas vous, Monsieur Vander.
Oh, mais oui, regarde, oh, ça c'est pas croyable.
Alors, vous êtes d'accord?
Et c'est eux qui payent, non?
Oui, pour vous substituer à eux pendant 7 jours. Juste une petite semaine.
C'est une histoire qui est vraiment toute simple. C'est un cascadeur, un musicien qui se retrouve engagé par 2 milliardaires parce qu'en fait, c'est littéralement leur sosie. Et en fait, les milliardaires, eux, veulent s'éclipser un tout petit peu parce qu'ils ont un contrat à signer. Mais ils sentent qu'il y a des gens qui sont prêts à leur planter des couteaux dans le dos tellement profonds qu'ils vont y laisser leur vie. Donc, ils échangent leur place. Et ça part simplement en comédie habituellement de sosie, c'est-à-dire qu'on s'attend à ce qu'ils prennent leur place, qu'ils essayent de faire attention à ne pas se faire remarquer, mais pas du tout, parce que le contrat de base avec les milliardaires, c'est que les milliardaires, eux, ils sont très sophistiqués, très trouillards, notre cascadeur et notre musicien, c'est des bagarreurs vulgaires et bons vivants. Et en fait, ils vont leur dire non, non, essayez pas de nous imiter, vivez votre vie. Et on va se retrouver dans un contexte où ils essayent pas vraiment de cacher qui ils sont. Ils vont dire des gros mots, ils vont aller dans les bars, ils vont fréquenter des danseuses qui s'habillent très peu. Et au milieu de tout ça, les domestiques et les gens qui les connaissent vont juste répondre non, mais en fait, c'est depuis qu'ils sont revenus des États-Unis. Et c'est un peu l'excuse pour expliquer leur changement de comportement, c'est ils sont allés aux États-Unis, ils sont revenus. Et ça crée du coup une comédie qui ne repose pas sur, sur le traitement des quiproquos qu'on attend habituellement. Et ce qui le rend très drôle, notamment parce qu'on critique les États-Unis dans cette idée qu'ils transforment n'importe qui y vont en grosse brute, mais aussi une certaine critique sociale parce que bah, les milliardaires et nos deux héros ne vivent pas de la même façon, bon, même si ce sont les mêmes acteurs. Il y a des choses qui sont intéressantes. Par exemple, on se rend compte que les riches dans le film, ils font souvent des mêmes trucs en boucle et on commence à douter qu'ils apprécient ces trucs, alors que leurs remplaçants, dès qu'on leur dit qu'ils doivent aller voir une sorte de conférence sur l'opéra, ils décident d'aller dans un bar boire des verres parce que c'est ce qui leur plaise. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un côté absurde avec toujours un élément où on en renchérit. Par exemple, il y a un moment où ils se font attraper finalement par les gangsters qui sont censés les arrêter. On a déjà une première rencontre entre les deux où les gangsters sont surpris que ces milliardaires aussi fragiles savent se battre et sont capables de gagner une baston de 2 contre 8. Grâce à qui, on se demande. Surtout, on a une scène où ils engagent un sniper pour tirer sur l'un d'entre eux et c'est le moment où le cascadeur décide d'imiter une cascade où il est censé se prendre une balle et il y survit. Mais le moment que j'aime beaucoup, c'est quand les bandits arrivent enfin à les attraper, les transfèrent en voiture pour les emmener jusqu'au lieu de la rencontre. Et sur le chemin, il y a Terence Hill qui fait un doigt d'honneur à la police. La police commence à les poursuivre. Il les arrête. Et en fait, l'argument de Terence Hill, c'est que non, mais en fait, on est les deux milliardaires. On allait vers le terrain de sport des policiers. D'ailleurs, on va offrir 5000 billets pour le match de foot qui arrive. Il y a toujours des trucs comme ça. Il y a une scène où ils se retrouvent. Il y en a un qui vient d'avoir des informations et il dit à l'autre « Ah, on ne peut pas en parler ici, ils sont dans la maison, on ne peut pas en parler ici, il faut qu'on aille dans un endroit un peu plus discret. » Donc on s'attend à ce qu'ils aillent dans une salle à côté pour en discuter. Non, ils vont à un match de foot, ils sont au milieu du stade, ils expliquent qu'on essaye de les tuer et pourquoi est-ce qu'on essaye de les tuer. Non mais c'est un film qui est incroyable. Vraiment, l'absurde et la surenchère sont vraiment un plaisir. Et un dernier détail qui est cool, c'est que dans tous les films, en tout cas ceux que j'ai pu voir, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que même si Terence Hill et Bud Spencer sont connus pour être un duo, les films, ils commencent jamais à deux. C'est toujours deux personnes dans leur coin qui vont se retrouver ensemble, qui vont vivre une aventure ensemble et qui, à la fin, ont un peu cet amour vache qui se développe avec le temps. Et là, je trouve que c'est extrêmement agréable.
Et ce sont très souvent des sosies. C'est marrant, mais en fait, c'est toujours la même histoire. C'est pas grave. Hein. C'est pour ça qu'on aime bien regarder ces films. Hein. Alors là, c'est vraiment, c'est pas rendez-vous en terre connue, hein. C'est rendez-vous en terrain connu. Mais terrain est connu plus loin. Hein. Mais
ça me fait penser que les gangsters, il y en a un qui s'appelle Apocalypse et il y en a un autre qui s'appelle Nao.
Ouais, ben voilà. Bon, après, voilà. Parce que par moment, il y a aussi des vannes homophobes, tout ça et tout. Bon, quand même, faut le dire. Mais on ne sait pas trop si c'est les doubleurs français aussi qui se lâchaient un peu quand même. Hein. Parce qu'il y a un peu de ça aussi quand même. Hein. Il y a un peu, tout cela est tellement un peu leste, un peu lâche, un peu. On sent bien que les mecs, quand ils font les films, ils s'amusent. Alors du coup, on s'amuse en les regardant. Mais que voilà, il y a un vrai côté, comment dire ça Il y a un vrai côté foutraque quoi, dans tous ces films. Là, le dernier dont on va parler, qui est toujours chez BQHL, hein, parce qu'ils sont tous sortis chez BQHL. Donc, je récapitule parce que je n'ai pas envie de me prendre une baffe. Hein, c'est donc « Salut l'ami, adieu le trésor, quand faut y aller, faut y aller, attention les dégâts ». Et celui dont on va parler là, « Les super flics de Miami », le film que Thomas est allé voir au cinéma lorsqu'il était enfant, grand enfant, mais c'est 85, c'était un grand enfant déjà, mais c'était le collège, c'était nos petits débuts dans la vie d'homme, hein. on rentrait au collège et tout ça, mon petit Thomas, voilà, c'était... Et il fallait avoir vu le dernier, Terence Hill, Bud Spencer. Tout le monde allait voir Terence Hill, Bud Spencer. C'était des stars. Et là, Thomas, je fais appel à ta mémoire, mais ce film de Bruno Corbucci, là, qui est sorti chez BQHL, donc en 4K, quand même, là, tu peux le revoir. Tu peux te faire une projo de ouf en 4K. Il raconte quoi comme histoire ? Doug Bennett, alias, qui l'on sait, le querelleur, il parvient à convaincre Steve Forrest, ah oui, son ancien équipier désormais pilote d'hélico, parce qu'il pilote souvent des hélicos dans les films ou des avions, parce qu'en fait, il a un vrai brevet de pilote, Bud Spencer. Donc, tant qu'à faire, autant se faire doublement plaisir. Hein, voilà. Et il va chercher son ancien coéquipier, qui n'a plus trop envie de s'embêter, qui est très bougon. Il ne veut plus faire la bagarre. Puis du coup, bah, il va y aller quand même, parce qu'il faut qu'il chope un énorme braqueur qui a un pactole du tonnerre, qui s'appelle Joe Garrett. Et à partir de là, mon cher Thomas, bah, évidemment, ça va être la bagarre, quoi.
Ah, il faut oublier Sonny Crockett et Ricardo Tubbs, hein, c'est pas du tout le même duo, c'est pas du tout la même ambiance, c'est pas le Miami glauque initié par Michael Mann dans sa série Miami Vice. Là, c'est beaucoup plus décontracté, c'est beaucoup plus sympathique et surtout, bah, c'est toujours la même chose, hein, deux potes qui font les 400 coups, qui foutent des torgnoles aux méchants. Voilà, c'est toujours la même chose. Mais moi, je me souviens d'une bagarre mémorable dans un bowling à la fin du film. J'étais mort de rire quand j'ai vu ça. Après, je ne me souviens plus de grand-chose d'autre. Hein. J'ai vu, j'avais 12 ans.
Ah, il y a aussi une bagarre de fou dans un entrepôt où ils stockent des sauces tomates. Et du coup, les mecs sont ensanglantés. En fait, c'est de la sauce tomate et ça tabasse à fond. Alors, c'est quand même le moins bon des quatre films là qui est proposé. Bien sûr, nous, on en a des souvenirs émus parce que c'est des films... Alors, celui-là, je ne l'ai pas vu au cinéma. Moi, j'ai vu quand faut y aller, mais je n'ai pas vu celui-là. Il y avait aussi des films qu'ils faisaient tout seuls. Moi, je me rappelle que j'ai vu Le Shérif et les extraterrestres avec que Bud Spencer. Ouais, de toute façon, il y en a un des deux. Je disais à mon père, ah, on va le voir celui-là. Mon père, ça n'avait pas l'air de trop l'embêter non plus d'aller voir. Ça le détendait bien, je pense. Donc, voilà, et... celui-là c'est le moins bon, mais enfin bon, quand on aime on ne compte pas, parce que Bud Spencer et Terence Hill, soit on les aime d'amour, soit on regarde pas leurs films, hein. De toute façon, si j'ai envie de dire, faites le test avec des gamins, parce que ça marche toujours, hein, en fait, hein, ça marche toujours. Par exemple, le premier Trinita marche toujours, hein, ça fonctionne bien avec des petits jeunes d'aujourd'hui, hein, c'est ce mélange de comique, parce qu'il y a un côté burlesque aussi dans les films, dans la gestuelle, dans le montage, alors moins dans celui-là, dans les Super Flics de Miami, mais enfin, de toute façon, cet amour là de ces deux acteurs et tout, il est très bien transcrit là dans les bonus. Il y a Jean-François Girec, on connaît surtout pour ses écrits sur le western italien, mais qui en fait est vraiment un amoureux de ce duo d'acteurs. Et vous pourrez en apprendre encore plus que tout ce qu'on vous dit là, puisqu'on n'a pas assez de temps pour tout élaborer. Alors attention, hein, c'est plein de clichés aussi, hein, voilà, ça on l'a dit, mais bah, c'est une époque, quoi, c'est une certaine époque. Vous adhérez pas, mais pour nous, Bud Spencer et Terence Hill resteront à jamais les grands amis de notre enfance.
I just wanna play the saxophone in my old jazz band when they took me down in Brazil. I just flew my plane up in the sky free as a bird, but now I've landed in Brazil. Someone just like you, it's double trouble. What's going on in Brazil?
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gangone et Radio Graphite. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone. Une émission animée avec Damien Demey, dit La Bête Noire de Compiègne. Thomas Roland, dit Le Loup-Garou Picard. And the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Manien à la technique. Salut les gens, à la prochaine.
I just wanna play the saxophone in my old jazz band when they took me down in Brazil. I just
just flew my plane up in the sky, free as a birdie. But now I've landed in Brazil.
What's going on in Brazil?